Il est 5h.
C'est quelqu'un de très vivant, de très chaleureux, de toujours attentif aux gens. Puis la famille Dassault a une grande histoire avec le département de l'Oise. C'est un sombre dimanche et on est tous en deuil.
Le décès d'Olivier Dassault, l'héritier de la famille Dassault, l'une des plus grandes fortunes de France et député de l'Oise, s'est tué hier soir dans l'accident de son hélicoptère en Normandie. 3 jours de visite historique en Irak et une messe pour finir à Erbil pour le pape François. Jean-Sébastien Soldani, pour Europe 1, a entendu et recueilli l'espoir suscité chez les chrétiens d'Orient. Et puis, dans cette journée internationale des droits des femmes, nous nous intéresserons à cette lame de fond dans le monde de l'édition, la multiplication des livres et même des maisons consacrées justement aux droits des femmes.
À suivre votre journal des sports et notre pressing du matin. Et puis les doigts dans l'assiette, nous serons dans les Vosges ce matin chez notre éleveur de chèvres, Bruno Lecomte. Bienvenue à tous, il est 5h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il était l'héritier de la famille Dassault, fils de Serge, petit-fils de Marcel. Olivier Dassault est décédé hier. Il s'est tué dans l'accident de son hélicoptère près de Deauville, en Normandie. Olivier Dassault, qui était âgé de 69 ans, était capitaine d'industrie, mais il était aussi député de l'Oise, sous les couleurs des Républicains, une famille politique saisie par l'émotion. Aurélie Herbemont.
Héritier de Dassault, 361e fortune mondiale, député de l'Oise pendant 27 ans, Olivier Dassault avait de nombreuses facettes. Élu de droite, résolument libéral, défenseur des entreprises, mais aussi pilote d'avion, les célèbres Falcon de la famille, photographe, chasseur, toujours un grand sourire aux lèvres. Éric Woerth, lui aussi député LR de l'Oise, perd un ami.
C'était inimaginable, c'était quelqu'un de très vivant, de très chaleureux, de toujours attentif aux gens. On se connaissait depuis 20 ans, 25 ans, donc c'est beaucoup. Et puis la famille Dassault a une grande histoire avec le département de l'Oise. C'est un sombre dimanche et on est tous en deuil.
Il était ami avec tout le monde au groupe LR, confie son président Damien Abad. Il va laisser un grand vide. Depuis l'annonce de sa mort, les hommages de la classe politique se multiplient, au premier rang desquels Emmanuel Macron. Le chef de l'État écrit « Olivier Dassault ne cessa de servir notre pays, d'en valoriser les atouts ». Son décès brutal est une grande perte.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1.
La collégienne à l'origine de l'affaire Samuel Paty reconnaît avoir menti.
Cette adolescente de 13 ans avait dénoncé les cours sur les caricatures données par le professeur, des propos repris par son père dans une vidéo. Samuel Paty avait ensuite été assassiné, vous le savez. Or, cette jeune fille n'avait pas suivi le cours en question. Elle l'a reconnu lors de sa garde à vue. Information de confrère du Parisien, un aveu encouragé par son avocat, Maître Mbeko Tabula.
Ma cliente, elle a reconnu avoir menti, avoir dit qu'elle était présente le jour où les caricatures ont été montrées, alors que c'était pas le cas. Elle s'en veut terriblement. Je l'ai poussée à dire la vérité parce que c'était pas dans son intérêt de mentir, vu la gravité des faits et vu l'enjeu. Je ne veux surtout pas qu'on dise qu'elle est responsable de cette décapitation, dans la mesure où cet assaillant complètement fou s'est permis une telle cruauté, c'est parce qu'il a cette pulsion de mort qui l'habite et qu'il avait besoin d'un prétexte pour passer à l'acte. Il faut raison garder dans cette situation et ne pas oublier qu'elle est 13 ans à l'époque et que ça reste une adolescente en construction.
Maître Mbeko Tabula, l'avocat donc de cette collégienne à l'origine de l'affaire Samuel Paty, il est interrogé par Justin Morin.
Le gouvernement avait annoncé sa volonté d'accélérer sur la campagne de vaccination en France. C'est ce qui s'est produit ce week-end.
Près de 600 000 personnes vaccinées depuis vendredi, selon les autorités. Une dimension nouvelle dans cette campagne, acquise notamment avec l'ouverture de nombreux centres de vaccination. Bonjour Mathieu Charrier.
Bonjour.
Alors, ces centres de vaccination qui ont visiblement fait leur preuve, la preuve de leur efficacité ce week-end, est-ce qu'ils sont amenés à durer ?
Alors non, pour le moment, il n'y a pas de généralisation des vaccinodromes, même si ce n'est pas un totem. On ne dit pas qu'on n'en veut pas par principe, m'a-t-on expliqué au ministère de la Santé, mais il faut que cet outil soit cohérent. Autrement dit, difficile d'imaginer pour le moment de gigantesques centres de vaccination, alors que déjà, les doses ne suffisent pas, et puis qu'on vaccine les personnes les plus âgées et à risque, peu aptes donc à se déplacer et surtout se regrouper. En revanche, en avril, lorsque l'on recevra 10 millions de doses et que tous les plus de 50 ans seront amenés à se faire vacciner, pourquoi pas imaginer de plus gros centres, détaille un proche d'Olivier Véran. Il faudra voir où nous en sommes, c'est-à-dire à quel rythme vaccinent les 1200 centres déjà répartis dans tout le pays, les pharmacies qui vont rejoindre le mouvement, les généralistes qui s'y mettent petit à petit. On compte sur tous ces canaux pour faire du volume, souligne-t-on au ministère de la Santé. Et alors si et seulement si c'est nécessaire, une réflexion sur la mise en place d'une stratégie vaccinodrome s'ouvrira.
Merci Mathieu Charrier, chef du service Société d'Europe 1. Au total, selon le ministère de la Santé, près de 3,8 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19 en France depuis le début de cette campagne.
5h05 sur Europe 1, le pape François s'apprête à quitter l'Irak hier au terme de son voyage historique de 3 jours.
Ce premier voyage d'un soir pontife en Irak s'est achevé à Erbil hier avec une messe dans un stade où s'étaient rassemblés des milliers de fidèles. À leur côté, l'envoyé spécial d'Europe 1, Jean-Sébastien Soldaini.
Les derniers mots du pape en Irak font référence à Allah. Durant 3 jours, il a œuvré pour que chrétiens et musulmans se parlent. Assise dans les gradins, Claudia est séduite par la méthode.
Nous avons l'impression que Jésus est passé nous voir. J'ai le sentiment qu'avec son passage, avec sa sagesse, toutes les communautés d'Irak se sont réunies. Le lien entre nous est ravivé.
Un lien spirituel, mais pas seulement. Drapeau du Vatican en main, Aziz vit à Karakoche, ville martyrisée par Daesh. Les chrétiens y reviennent au compte-gouttes et il espère que le passage de François va relancer la machine économique.
Le pape est venu mettre un coup de projecteur sur ma ville. Ça suffit pour changer les choses. Les Irakiens et les autorités vont comprendre que nous sommes revenus dans le pays, mais que nous avons besoin d'emploi, qu'il faut nous aider à vivre.
La messe du pape se termine au coucher du soleil. Au même moment, au loin, monte le chant d'un muezzin, un appel à la prière comme un passage de relais. Erbil, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Aux États-Unis à présent, c'est aujourd'hui que s'ouvre un procès qui devrait marquer l'histoire du pays.
9 mois après la mort de George Floyd à Minneapolis, le policier accusé de l'avoir tué se présente devant la justice à partir d'aujourd'hui. Bonjour Alexis Guilleux.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. C'est un procès hors norme qui s'ouvre aujourd'hui.
Oui, dans le centre-ville de Minneapolis et autour du tribunal, des grilles métalliques surmontées de fils barbelés, 2000 membres de la garde nationale ont été déployés, des commerces se sont également barricadés. Alors le procès commence aujourd'hui par la sélection des jurés. C'est un processus qui prend normalement peu de temps, mais là il va durer plusieurs semaines. Les regards seront tournés vers ces 12 personnes qui condamneront ou acquitteront Derek Chauvin. Les premiers témoignages et les plaidoiries doivent commencer à la fin du mois de mars. Hier, une marche silencieuse était organisée à Minneapolis en hommage à George Floyd. Nous savons que George Floyd a été tué à cause d'un genou placé sur sa nuque pendant plus de 9 minutes, explique Nekima Levi-Armstrong, avocate et militante des droits civiques. Nous ne l'oublierons jamais et nous continuerons à demander justice. Le cortège portait un cercueil blanc et une banderole « I can breathe »,« Je ne peux plus respirer », les mots répétés par George Floyd avant de mourir. Les noms de dizaines de victimes de violences policières ont également été lus, car en fait ce procès dépasse le simple cas de Derek Chauvin, c'est aussi celui des pratiques policières aux États-Unis.
Merci Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
En France, c'est une affaire qui a toutes les caractéristiques du harcèlement sur lequel la justice doit se prononcer aujourd'hui.
Jugement attendu pour un grand patron accusé d'avoir harcelé, humilié son ancienne DRH pendant 2 mois en 2019. Et Chloé Triomphe, il l'avait inondé de mails malveillants des milliers de personnes de l'entourage de sa victime.
Oui, ce patron d'entreprise n'a pas supporté que sa DRH le quitte sur un plan personnel. Ils avaient une liaison et qu'elle décide aussi de changer d'employeur. Sa vengeance, il l'a donc exercée de manière massive en s'adressant aux futurs collègues de sa victime, comme le détaille l'avocat de cette dernière, Maître de la Morandière.
Il a envoyé à environ 2000 salariés de cette nouvelle société des emails extrêmement malveillants, des photos d'elle nue, des photos à caractère sexuel. Quand vous expliquez qu'une femme qui a fait des études, qui est cadre supérieur, qui a réussi, qui a mené très correctement sa carrière, elle n'a réussi que parce que c'est une femme et qu'elle joue des faveurs sexuelles, c'est porter atteinte à sa dignité, certes, mais c'est aussi porter atteinte à sa crédibilité professionnelle.
À cela se sont ajoutés des centaines de courriels malveillants, calomnieux et intimes adressés à près de 300 personnes, entre la famille de cette femme, ses amis, sa paroisse et même les parents de l'école de ses enfants. Des actes multiples, répétés, qui caractérisent le harcèlement selon l'avocat de la victime. Le parquet a requis 30 mois de prison contre l'auteur des faits.
Merci Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Une affaire de harcèlement donc jugée en ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, une cause beaucoup mieux défendue désormais dans le milieu de l'édition. Nicolas Caro.
Plus 15% d'essais consacrés aux femmes entre 2017 et 2020, plus 44% au rayon jeunesse. Selon les chiffres du magazine Livre Hebdo, les sujets féminins ou féministes sont devenus des arguments de vente. De nouvelles maisons d'édition se créent uniquement dédiées aux femmes. Cécilia Lacour, journaliste chez Livre Hebdo.
Il y a des maisons comme François Bourin qui a été rebaptisée Les Pérégrines, donc qui appuie clairement une ligne féministe. Il y a Juliette Ponce qui a lancé Dalva pour ne publier que des autrices.
Nouvelle maison d'édition, donc plus de livres à éditer, plus d'auteurs et autrices à trouver. Des agentes littéraires se sont spécialisées dans le domaine et les librairies font de la place pour de nouveaux rayons.
C'est un petit peu comme pour l'écologie il y a déjà quelques années. La hausse de la production éditoriale implique qu'ensuite il faut pouvoir ranger ses ouvrages dans des rayons dédiés en librairie, bibliothèque.
Et la tendance ne faiblit pas, on prévoit même une augmentation des titres sur le sujet en 2021.
Nicolas Caro.
Merci, c'était le journal de Rémi Bossaron, il est 5h10. Le journal des sports, c'est avec vous, Martin Lange ce matin, bonjour Martin.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
À la une, un exploit.
Oui, celui des amateurs de Canet-en-Roussillon, hein, des joueurs de National 2, la 4e division. Ils ont éliminé l'Olympique de Marseille hier soir. Victoire indiscutable, hein, 2-1, grâce à des buts de Jérémy Posteraro et Johan Bay.
Un très beau coup franc notamment.
Un magnifique coup franc en première mi-temps, tout à fait. Alors la recrue star de l'OM, Milik, avait égalisé en fin de première mi-temps. Hein, mais les Olympiens apathiques n'ont pas fait le poids face à l'enthousiasme et la fougue des amateurs. À la fin du match, Farid Fouzari, l'entraîneur de Canet-en-Roussillon, saluait le gros match de son équipe.
C'est une énorme performance, hein, faut reconnaître. Hein, battre Marseille, comme je vous l'ai dit, les jouer 10 fois, on les battra pas 10 fois, c'est impossible. Là aujourd'hui, on va savourer ça, c'est parce que ça c'est le côté vraiment important après le match. Bon, moi je suis fatigué, là, je vous le dis franchement. Après, moi j'ai vu, on les a perturbés, on les a fait douter, on les a fait déjouer aussi. Hein, la semaine, on l'a travaillé vraiment tactiquement. Quand je vois qu'on transpose ça sur le terrain, c'est vraiment extraordinaire.
Farid Fouzari, le coach de Canet-en-Roussillon, au micro de Jean-François Pérez. À noter que du côté de l'OM, c'était le dernier match de l'entraîneur intérimaire Nasser Larguette qui quitte ses fonctions sur ce naufrage. Il sera remplacé cette semaine par l'Argentin Jorge Sampaoli.
Dans les autres résultats de ces 16e de finale de Coupe de France, Martin.
Alors, Angers a battu les Martiniquais du club franciscain, 5-0, des amateurs là encore, tandis que Lille s'est imposé 3-1 sur le terrain du Gazélec d'Ajaccio. La Coupe de France qui continue aujourd'hui, hein, avec un alléchant Nice-Monaco, coup d'envoi à 21h.
La fin des championnats d'Europe d'athlétisme hier à Toruń avec un bon bilan pour l'équipe de France.
Oui, 4 médailles dont 2 titres hier. Kevin Meyer a assumé son statut de favori lors de l'heptathlon, tout comme Willem Belossian sur 60 mètres haies. À la perche, un Lavillény peut en cacher un autre puisque le cadet Valentin a pris le relais de son frère Renaud blessé. Deuxième avec 5,80 m, il décroche sa première médaille internationale, le tout à 29 ans. Forcément, une fierté, on l'écoute.
Ça claque un petit peu, vice-champion d'Europe, hein. Ça fait plaisir. Hein. Donc ouais, c'est un premier podium et d'être devant l'ISSEC, ça donne de la valeur à la chose et gagner les championnats de France, ça m'a libéré, mais ça m'a permis d'ouvrir des portes et de voir de nouveaux horizons. Je voulais totalement la médaille, je vais pas le cacher, j'étais venu ici pour chercher une médaille. À la base, il y avait Renault en plus, donc je savais que ça allait être dur à avoir, mais il y avait une place à aller chercher. Quand Renault, malheureusement, a dû se désister, ça a ouvert des portes encore plus grandes. J'ai fait le saut au bon moment, donc ça, c'est parfait.
Valentin Lavillény, médaillé d'argent hier à Toruń, derrière le Suédois recordman du monde, Mondo Duplantis.
Intouchable comme toujours. Et pour finir, un petit peu de basket, Martin.
Oui, avec le All-Star Game de la NBA qui se tenait cette nuit à Atlanta.
Off the leg of Mitchell, lost to Curry with the steals. Here is LeBron for Rudy Gobert.
Avec le français Rudy Gobert, exactement, qui était de la partie. Il a marqué 10 points et pris 7 rebonds. Et c'est son équipe, hein, la team LeBron James, qui l'a emporté face à la team Kevin Durant, 170 à 150.
Et on y reviendra tout à l'heure à 6h15 avec notre invité inattendu. Merci beaucoup, Martin Lange. À tout à l'heure pour le pressing. À 5h14, les courses avec le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Théo. Il y aura des courses cet après-midi à Caen. Et mon pari gagnant sera le 708 French Way of Life. Voilà une jument sur laquelle on peut compter. 19 courses et déjà 10 victoires obtenues sur des hippodromes aussi différents que Vincennes, Cabourg, Amiens, Reims et Cholet. Bref, elle s'adapte à tous les profils de piste. C'est une vraie guerrière qui devrait pouvoir, sur sa lancée, continuer à enchaîner les bonnes performances. Notez bien, pour cet après-midi à Caen, réunion 1 dans la 7e course, le numéro 8, French Way of Life.
C'est noté, merci Thierry Léger. On vous retrouve dans 20 minutes pour les pronostics du Quintet.
Europe 1.
Et non pas les pronostics du Comté, ça c'est autre chose. On va parler fromage de chèvre avec notre éleveur Bruno Lecomte dans les doigts dans l'assiette tout à l'heure. L'heure d'ouvrir dans un instant notre pressing. Quelles histoires vous auront marqué dans la presse, Ombline, ce matin?
Elles ne sont pas infirmières employées par le ministère des Armées, mais combattantes engagées dans l'opération Barkhane avec gilet pare-balles ou fusil FAMAS. Elles ne sont pas hôtesses de l'air, mais pilotes copilote, coup de projecteur sur des femmes qui occupent ce qu'on appelait des métiers d'hommes.
Mmh, en ce lundi 8 mars, journée internationale des droits des femmes. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Théo Manval.
À 5h16, l'essentiel de l'actualité ce matin. Près de 600 000 personnes ont été vaccinées depuis vendredi en France. C'est ce qu'indique le gouvernement qui assure que cette accélération de la campagne va se poursuivre. Les centres de vaccination devraient se multiplier à mesure que les livraisons de vaccins augmentent. Elles seront, selon les autorités, 5 à 6 fois plus importantes au mois d'avril. Le député LR et capitaine d'industrie Olivier Dassault, décédé hier soir dans un accident d'hélicoptère en Normandie. Le fils de Serge Dassault et petit-fils de Marcel Dassault aimait la France. C'est par ces mots qu'Emmanuel Macron lui a rendu hommage. Et puis le pape François a conclu hier sa visite historique et sous haute sécurité en Irak avec une messe devant des milliers de fidèles à Erbil. Il a appelé les chrétiens à ne pas se décourager. Avant de repartir, le souverain pontife a également rencontré le père d'Alan Kurdi, ce petit garçon syrien mort noyé en mer Égée lors de la crise des réfugiés en 2015.
Europe 1.
5h17, c'est parti pour notre pressing du jour avec vous, Ombline Roche et Martin Lange. Et on commence, si vous le voulez bien, par un coup d'œil aux unes de vos journaux. Et cette visite historique du pape François en Irak, justement, à la une de Ouest France et du Figaro. Le pape sème l'espérance, écrit Ouest France. Photo à l'appui dans l'église de Caracoche, où s'est rendu François hier pour célébrer une messe devant des centaines de fidèles. Église meurtrie et en partie détruite sous le règne funeste de l'État islamique. Deux mots aussi en première page du Figaro et du journal L'Opinion. Le Front républicain peut-être bientôt aux oubliettes à un peu plus d'un an de la prochaine présidentielle. Après la publication d'un sondage donnant Marine Le Pen et Emmanuel Macron au coude à coude, l'exécutif cherche la mesure qui pourrait rassurer la gauche, écrit le Figaro. Parce qu'aujourd'hui, ni les socialistes, ni les républicains et encore moins les insoumis ne viendraient au secours du président sortant, complète l'opinion. La campagne vaccinale, on en parlait, elle s'accélère. Vaccination même le dimanche, titre Le Petit Bleu d'Agen. Alors que le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, en remet une couche sur les soignants, il évoque à la une du Parisien la vaccination obligatoire pour eux contre le Covid s'ils ne se mobilisent pas rapidement à ce sujet. En ce lundi 8 mars, et on va y revenir avec vous, Ombline, journée mondiale des droits des femmes, ces femmes de volonté à la une de l'Est éclair, gendarmes, pâtissières ou championnes d'escalade prennent la parole, de même que les élus UES de Montpellier dans les pages du Midi Libre. Enfin, un travail d'amateur, ironise l'équipe en direction de l'OM, sorti hier soir par les amateurs de Canet-en-Roussillon en Coupe de France. 3 divisions d'écart, l'exploit, salue dans les Pyrénées-Orientales le journal L'Indépendant, ridicule, épelle au contraire avec dépit la Provence à Marseille. Allez, on passe aux trois histoires qui ont attiré notre attention ce matin. Et donc, Ombline, ces femmes qui exercent ce qu'on appelait autrefois des métiers d'hommes, ouais, et qui n'en sont pas du tout, qui n'en ont jamais été d'ailleurs.
Exactement, qui évoluent dans des univers, on va dire, à prédominance masculine.
C'est comme ça qu'il faut dire.
Et aujourd'hui, en France, nous les présente la brigadière Mirella, c'est que son prénom pour des raisons de sécurité, et technicienne spécialiste des carburants. Elle conduit un camion-citerne dans le désert malien. Elle est chargée de ravitailler depuis la base de Gao les blindés, les avions et les hélicoptères de Barkhane. Les femmes représentent 16% des effectifs militaires. En 2019, c'est deux fois plus qu'en 1995. Les corps d'armée les plus virils sont les moins demandés par les diplômés EES de Saint-Cyr. Avec son plan mixité, la ministre des Armées, Florence Parly, souhaite favoriser l'équité femmes-hommes et doubler la part des femmes parmi les officiers généraux d'ici 2025. Mmh. C'est l'armée de l'air qui est la plus féminisée, figurez-vous.
Tiens donc.
Mais on croise très très peu de femmes pilote de chasse. Mmh. Elle est aux commandes. Justement, cela faisait 5 ans que l'École nationale de l'aviation civile était ouverte aux femmes lorsque Béatrice Vial a passé le concours. Elle a 59 ans aujourd'hui. Elle est commandante de bord sur un Boeing 777. Elle a été la seule femme française à avoir piloté le Concorde. Alors, lorsque vous lui demandez...
Ça, c'est la classe quand même.
Oui. Et elle était très heureuse d'ailleurs au bord du Concorde, c'était la classe comme elle le dit exactement. Lorsque vous lui demandez si elle a rencontré des difficultés pour élever ses enfants alors qu'elle voyageait aux quatre coins du monde, elle répond que c'est exactement comme les hôtesses de l'air. Et on se pose jamais la question pour les hôtesses de l'air, sauf qu'elles n'ont pas le même salaire. Mmh. Aujourd'hui, les femmes représentent 9% des 3600 pilotes d'Air France. Elles n'étaient que 10 quand Béatrice Vial a commencé en 1985. Et ne cherchez plus les pins pilotes pour les garçons et les pins hôtesses de l'air pour les filles distribuées par Air France. Ils n'existent plus, tout comme les métiers d'hommes ou de femmes, c'est dans aujourd'hui en France.
Ça a du bon, les avancées. Merci Ombline Roche. Merci. Moi j'ai choisi de vous parler d'une lettre un peu plus dérangeante, beaucoup plus dérangeante même, que publie Libération ce matin. La lettre d'un violeur à sa victime. Et on n'a pas l'habitude de lire ce genre de texte. Libération publie en effet les excuses de son agresseur envers Alma, étudiante de Sciences Po Bordeaux, à l'origine avec d'autres de la libération de la parole autour du mot dièse Sciences Po sur les réseaux sociaux. La lettre s'intitule « J'ai violé, vous violez, nous violons » et dès les premières lignes, son auteur âgé de 20 ans, reconnaît avoir contraint celle qui était sa copine à l'époque à une relation sexuelle. Il présente, et c'est important, des excuses. Jamais il ne se justifie, mais il liste ce que Libération appelle des déterminants à la commission de son acte. Des facteurs personnels, sociaux, il évoque par exemple son passé d'enfant lui-même abusé, son éducation aussi, la société dans laquelle on grandit tous et qui façonne ce que certains appellent aujourd'hui la culture du viol à travers une vision de la masculinité qui mettrait en valeur le pouvoir, le fait de privilégier son plaisir aux dépens de celui des autres. Alors c'est vrai que c'est parfois dérangeant de lire ça, on a l'impression d'un florilège d'excuses ou de justifications, mais ça ne doit pas apparaître justement comme la justification ou de la déresponsabilisation, écrit ce jeune homme. Il promet d'engager un parcours de soins et surtout en acceptant que sa lettre soit publiée, même anonymisée, il accepte que Libération, comme la loi le demande, transmette son identité à la justice quand elle ouvrira une enquête. Libé ne se réfugie pas derrière le secret des sources dans ce cas si douloureux. D'ailleurs, la victime, Alma, dit bien qu'elle portera plainte quand elle sera prête. Il y aura donc des poursuites contre ce jeune homme dont la lettre d'excuse est publiée, c'est-à-dire dans Libération. Martin Lange, on termine avec vous. Quelque chose de beaucoup plus léger. En ce 8 mars, vous nous racontez l'histoire inspirante de Naleli Kobo. Qui est-elle ?
Alors, oui, cette Américaine, elle a 19 ans, elle est originaire de Los Angeles et elle a déjà fait plier des compagnies pétrolières, vaincu le cancer et elle compte désormais se lancer en politique.
Rien
que ça, à 19 ans, ça fait beaucoup. Alors c'est la BBC qui tisse son portrait, repris en France par le site en ligne Slate. Alors tout commence il y a 10 ans, Naleli en a 9. Était vraiment enfant. Et elle souffre de maux de tête, de saignements, de difficultés à respirer. Sa famille, ses proches, ses voisins, beaucoup de monde autour d'elle est frappé par ce drôle de mal qui s'accompagne d'une odeur d'œuf pourri qui envahit tout le quartier. Alors elle monte un groupe d'apprentis activistes, prend contact avec des toxicologues et acquiert très vite une certitude: le mal provient du puits de pétrole situé en face de leur quartier.
Elle lance donc, cette jeune fille, une campagne à l'époque.
Oui, People Not Pozos. Alors ça veut dire des gens, pas des puits. Une campagne qui arrive jusqu'aux oreilles d'une ancienne sénatrice de Los Angeles. Elle dépêche une équipe sur place, mais au bout de seulement quelques minutes, plusieurs membres de cette équipe commencent à se sentir mal à cause des odeurs et rebroussent chemin. Le combat de People Not Pozos prend du temps, mais les premières victoires arrivent. En 2013, le groupe Alenco, qui gère le puits de pétrole dont on vous a parlé, en face de leur quartier, et ce puits de pétrole ferme temporairement. En 2016, c'est la ville de Los Angeles qui attaque directement en justice la compagnie pétrolière.
Des victoires locales qui ne suffisent pas à la jeune activiste.
Non, aujourd'hui, donc à 19 ans, Naleli milite pour la fermeture pure et simple de tous les sites pétroliers en zone habitée. À Los Angeles, il y a plus de 500 000 personnes qui vivent à moins de 500 mètres d'un puits de pétrole en activité, souvent des personnes pauvres, issues des minorités. L'année dernière, un cancer lui a été diagnostiqué, probablement à cause des produits qu'elle respire depuis l'enfance. Elle a subi une ablation de l'utérus, pris un peu de recul sur tous ses combats. Mais moins d'un an plus tard, la jeune femme est guérie, elle repart au combat et voit plus grand. Elle se rêve avocate en droit civil et veut se lancer en politique.
Ah ben, on suivra son parcours. Donc, Naleli Kobo, 19 ans, jeune américaine originaire de Los Angeles. Merci Martin. Merci Ombline.
Merci. Merci.
Rideau sur le pressing et je vous dis à tout à l'heure.
Théo Manval vous informe sur Europe 1.
À 5h24, les doigts dans l'assiette, notre rendez-vous quotidien avec nos agriculteurs, nos producteurs et direction la Bresse dans les Vosges. Retrouvez ce matin notre éleveur de chèvres Bruno Lecomte. Bonjour Bruno.
Ouais, bonjour Théo, bonjour à tous.
Vous avez passé un week-end animé, beaucoup de monde je crois pour les ventes de votre fromage frais ce week-end.
Ouais, c'était pas que le week-end, c'était toutes les vacances scolaires. Voilà, on a eu beaucoup de monde, effectivement, ce qui fait qu'il nous a manqué du fromage. On fait maintenant 300 fromages en ce moment, là. Et puis, quasiment tous les jours, il nous manquait du fromage.
La production est continue chez vous toute l'année, parce que vous élevez chèvres et boucs toute l'année. La production de fromage, c'est toute l'année aussi?
Non, on a ouvert le 17 février. Donc, j'ai fait une petite intervention avec vous, le premier jour d'ouverture. Et puis, on ne savait pas si on allait avoir beaucoup de monde ou quoi, avec les restrictions Covid, en fait. Et puis, on a aménagé toute la ferme pour que les gens puissent voir quand même les cabris, les chèvres, avec les mesures de distanciation, tout ça. Et donc, ça s'est bien passé. On a eu quand même beaucoup de monde. Et puis, il nous manquait du fromage.
Alors, justement, parlez-nous de ces différents fromages que vous produisez.
Alors, on n'a pas une gamme super grande, en fait. On fait des fromages frais, des demi-affinés, affinés. On fait de la tome de chèvre, la tome qu'on peut affiner jusqu'à 2 mois. Mais ben là, on a attaqué notre production fromagère donc depuis la mi-février. Et ce qui faisait qu'on, comme on vendait nos fromages tous les jours, qu'il n'y en avait plus, eh ben, on n'avait pas le temps de les affiner. Donc, on n'avait qu'une seule gamme de fromages. On ferait avec des échalotes, des poivrons aussi, des frais nature.
Ça donne très envie de tout ça.
Le soir, il n'y avait plus, quoi.
Et justement, ça demande un savoir-faire particulier. Est-ce qu'en plus de l'élevage, c'est vous aussi qui vous occupez de la préparation de ces fromages, de la transformation du lait, l'affinage, quand vous avez le temps de ne pas tous les vendre tout de suite?
Alors, on a tous les deux une formation fromagère, ma femme et moi. On a un BTS agroalimentaire. Donc, on peut se remplacer l'un et l'autre, en fait. Mais c'est plutôt ma femme qui s'occupe des frais, moi, des bêtes. Et puis, oui, il vaut mieux avoir une formation, parce que sinon, on peut très bien doper ses fromages dès le premier tour, quoi.
C'est sûr. Alors, qu'est-ce que vous mettez dedans? Vous me parliez de recettes aux échalotes?
Oui, on achète quelques échalotes. On n'a pas le temps de les produire. On n'a pas le climat aussi pour faire des herbes de Provence. C'est quelques fromages qui sont aromatisés, que les gens, ils apprécient à l'apéritif, en fait. C'est pas que les couleurs qui sont attrayantes. C'est aussi du goût. Des fois, les gens, ils apprécient d'avoir des goûts un peu différents que le frais nature. Mais c'est vrai qu'un bon demi-affiné ou un affiné, c'est quand même excellent, quoi.
Bah oui, mais en apéritif ou juste avant le dessert. Mais ça va être dans combien de temps?
Ça va être dans 3 semaines, là, maintenant.
Allez, dans 3 semaines. Bah, on vous rappelle, dans 3 semaines, Bruno Lecomte à la Bresse, dans les Vosges, et on vous passe une petite commande de fromage affiné. Merci beaucoup.
Volontiers.
D'avoir été avec nous. Vous nous mettez un petit peu de fromage de côté, puis on vous rappelle d'ici peu dans les doigts dans l'assiette. Bonne journée, Bruno Lecomte.
Oui, au revoir.
So I did, and I saw
Back, c'était Céleste, l'une des révélations de l'année 2020 avec son album Not Your Muse. Et notez que en cette journée internationale des droits des femmes, programmation 100% féminine ce soir chez Émilie Mazoyer à partir de 20h avec comme invité les chanteuses Clou, Suzanne et Ize. Juste avant 5h30, le temps de ce lundi matin, avec vous Laurent Cabrol, ce sera pas désagréable aujourd'hui Laurent?
Oui, cette journée, comme je disais tout à l'heure, s'annonce plutôt bien, avec des éclaircies très présentes sur les régions de la moitié nord, et ce tout au long de la journée. Sur Paris, ce sera beau, comme sur les régions de l'Est, et sur la vallée de la Loire par exemple. Alors que dans le sud, nous avons encore quelques pluies, des pluies dans le sud-ouest, des pluies ou des averses sur la région Rhône-Alpes. Et ces pluies, ces averses vont quand même s'estomper au fil des heures, au point que dans le courant de la journée, on peut dire que les éclaircies vont s'imposer quasiment partout, excepté sur le piémont pyrénéen, et puis un voile nuageux sur le bassin méditerranéen. Mais l'amélioration arrive par le nord, et nous avons des vents de nord, donc il fait froid, hein, je le disais tout à l'heure, le froid s'intensifie, même moins 5 à Épinal ce matin, moins 4 à Auxerre, moins 3 à Colmar, moins 2 à Rennes, moins 1 à Lille, alors nous parlons, comme en banlieue parisienne, plus 4 à Lyon et plus 6 à Bordeaux. Dans le courant de la journée, les températures, grâce à l'ensoleillement, seront quand même beaucoup plus raisonnables, si je puis dire, entre 7 et 14 degrés ou 15 degrés sur la plupart des régions de France. Donc vous voyez, ce sont des températures qui sont quand même relativement douces pour la saison.
Merci Laurent, on vous retrouve tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
Merci d'avoir choisi Europe 1 pour démarrer la journée. Tout de suite, un nouveau journal. Bonjour Carole Ferry.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
Il est 5h30.
C'est une leçon de foot, franchement, exemplaire, solide derrière. Ils n'ont jamais tremblé du début jusqu'à la fin. Voilà, c'est une belle histoire. Ils ont le cœur, ils ont la passion et ça, c'est magnifique.
Une belle histoire pour les amateurs de Canet en Roussillon, mais une véritable humiliation pour l'OM. Les Marseillais ont été éliminés de la Coupe de France hier soir. Nous vous dirons tout dans ce journal sur l'interview explosive accordée cette nuit par Harry et Meghan à la chaîne américaine CBS. La mort d'Olivier Dassault, député et fils de Serge Dassault. Son hélicoptère s'est écrasé près de Deauville, en Normandie. Et puis à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes, nous partirons à la rencontre de la seule femme à la tête d'une compagnie de CRS.
Et toujours à cette occasion, je reçois dans 10 minutes Chiara Corazza, directrice générale du Women's Forum, missionnée par le gouvernement pour une meilleure place des femmes dans les métiers d'avenir. Et puis la France bouge, les belles initiatives qu'on repère pour vous chaque matin, c'est à suivre après le journal. Très bon réveil.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
L'Olympique de Marseille visait la finale de la Coupe de France de football.
Eh ben c'est raté, l'OM a finalement été éliminé dès les 16e de finale hier soir par le modeste club de National 2, Canet en Roussillon.
Défaite 2-1, humiliation on peut le dire pour le club de Ligue 1, mais il faut saluer en revanche cette très belle victoire des Catalans, Jean-François Pérez.
Oui, une ambiance comme avant, hein, pour un exploit majuscule. Une cinquantaine de supporters, de membres du club du Canet, en communion avec leurs joueurs. Et le buteur décisif, Johan Bay, qui nous déconseille tout simplement de descendre au vestiaire pour réaliser des interviews.
Rentrez pas là-bas. Le vestiaire, il est en folie. On se fait des câlins par-ci, par-là. On remercie tout le monde. Je sais même pas si on a envie de rentrer chez nous. Je crois qu'on va dormir au stade si c'est possible.
Malgré un championnat à l'arrêt et de lourdes incertitudes financières, les footballeurs amateurs ont donné une formidable leçon d'envie et de jeu aussi à des Marseillais pathétiques. Thomas Taravel, co-président du Canet, a encore du mal à y croire.
Ouais, on est un peu dans une transe. Tout président d'un club amateur rêve d'éliminer l'OM. Je pense qu'on les a éliminés en plus de la plus belle des façons. Notre équipe, je pense, mérite largement sa victoire et elle n'est pas volée. Et nos garçons nous ont montré qu'ils avaient d'énormes qualités.
Voilà, c'est ainsi que les Catalans joueront le mois prochain le premier huitième de finale de Coupe de France de leur histoire. Quant à l'OM, nul doute que le bouillant entraîneur argentin Sampaoli, qui prend les commandes de l'équipe ce matin, a dû passer une sale nuit. Sa tâche pour remettre le club marseillais à flot s'annonce titanesque. Perpignan, Jean-François Pérez, Europe 1.
L'autre événement de ces dernières heures, c'était cette nuit sur la chaîne américaine CBS.
La tant attendue interview du prince Harry et de sa compagne Meghan dans le show de l'iconique présentatrice Oprah Winfrey.
Les successeurs ont réglé leur compte avec Buckingham Palace un an après leur mise en retrait de la famille royale. Benoît Clerc, vous avez suivi cette interview pour Europe 1. On peut parler d'une interview explosive.
Oui, l'entretien diffusé cette nuit sur CBS va faire du bruit et le New York Times m'évoque ce matin la rébellion des Sussex. En 2 heures chrono, Oprah Winfrey a posé toutes les questions sur la rupture entre le couple et le palais de Buckingham et les réponses de Meghan et Harry ne sont pas tendres. Elle dit avoir été réduite au silence après son entrée dans la famille royale, pas aidée lorsqu'elle était enceinte en proie à des tentations suicidaires ou encore choquée lorsque des conseillers se sont inquiétés de la couleur de peau d'Archie.
Des conseillers se sont même préoccupés de savoir à quel point sa peau serait foncée.
Le couple confie s'être marié en secret dans leur jardin avec l'archevêque de Canterbury 3 jours avant la cérémonie officielle et avoir décidé de quitter ce qu'ils appellent la firme, l'institution, dès avant cette célébration. Harry n'est pas plus tendre pour son père, le prince Charles, dont il dit être vraiment déçu, même s'il a de la compassion pour lui et son frère, qu'il considère tous les deux comme prisonniers du système. Dans ce règlement de compte royal par médias interposés, une seule bonne nouvelle en forme de carnet rose, une petite fille est attendue par le couple pour l'été prochain.
Merci Benoît Clerc, vous êtes l'un des correspondants d'Europe 1 aux États-Unis. La mort d'Olivier Dassault hier soir dans des circonstances tragiques.
Le député de l'Oise et fils du grand industriel Serge Dassault est mort dans un accident d'hélicoptère en Normandie.
Et les circonstances restent encore très floues, Justin Morin.
Oui, tout ce que l'on sait pour le moment, c'est que cet accident s'est produit vers 17h50 hier soir sur les hauteurs de la ville de Touques, près de Deauville. Deauville où la famille Dassault possède une propriété. Le crash s'est déroulé au moment du décollage, selon le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, le BEA, qui a ouvert une enquête. Ses agents doivent arriver sur place ce matin. On sait aussi qu'il s'agissait d'un vol privé, que le pilote a également été retrouvé mort et qu'il n'y avait pas d'autres passagers à bord. Hier soir, la procureure de la République de Lisieux s'est rendue sur le lieu lieu de l'accident. Elle a ouvert une enquête pour homicide involontaire. La section de recherche de la gendarmerie des transports aériens est en charge des investigations. Alors avec la nuit, les enquêteurs n'ont pas pu procéder aux analyses techniques qui permettront de comprendre les causes de l'accident. Ce travail doit commencer dès ce matin.
Justin Morin du service police-justice d'Europe. Ouverture aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale à Paris du procès de Reda Cricket.
Il avait été arrêté 2 jours après les attentats meurtriers de Bruxelles en mars 2016. Selon les autorités, il était sur le point de commettre un autre attentat de très grande ampleur en France.
Il comparait aux côtés de 6 autres accusés. L'attentat qu'il préparait aurait pu être peut-être aussi meurtrier, si ce n'est plus que celui du 13 novembre, Gladys Laffitte.
Oui, à en juger d'abord par l'arsenal de guerre d'une ampleur inédite que les policiers ont découvert dans un appartement que Reda Cricket louait à Argenteuil. 7 armes de poing, 6 armes automatiques, des explosifs, des couteaux ou encore 11 000 billes métalliques. Bref, pour les enquêteurs, Reda Cricket était bien à la tête d'un groupe prêt à passer à l'acte, un groupe baptisé la cellule d'Argenteuil. Leur cible est bien possiblement l'Euro 2016 ou le quartier de la Défense, mais l'enquête ne l'a pas démontré avec certitude puisqu'aucun des accusés n'a donné de réelles explications. Seul Reda Cricket a fini par dire qu'il voulait braquer des dealers. Alors pour les autorités, pourtant, ça ne fait pas de doute. L'équipe d'Argenteuil était liée d'une manière ou d'une autre aux commandos de Paris et de Bruxelles, de par leur supposé séjour en Syrie et de par leur contact avec des hauts cadres de l'État islamique chargés d'organiser les attentats en Europe. En 2015, Reda Cricket avait été condamné en son absence en Belgique, dans la même affaire qu'un certain Abdelhamid Abaoud, coordinateur des attentats du 13 novembre.
Merci Gladys Laffitte. Le procès est prévu pour durer 1 mois.
5h37 sur Europe 1. Nous sommes aujourd'hui le lundi 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes.
À cette occasion sur Europe 1, nous avons souhaité vous présenter une femme hors du commun, la seule à commander une compagnie de CRS en France. Elle a été nommée il y a seulement 4 mois dans ce corps de la police qui ne compte que 4% de femmes. Portrait de Laetitia Vincent, basée à Dijon, avec notre correspondant Jean-Luc Bougeon.
J'aime pas qu'on m'appelle commandante, je veux qu'on m'appelle commandant.
D'entrée, le ton est donné, même si Laetitia Vincent est fière de son parcours. Elle ne veut pas porter sa féminité en étendard, son but c'est simplement d'être reconnue comme un bon officier, même si elle admet que son arrivée chez les CRS n'a pas été évidente.
L'accueil est quand même relativement frileux. Au début, j'étais un objet de curiosité, quoi. J'étais vraiment regardée de la tête aux pieds quand je rentrais quelque part. Aujourd'hui, c'est rentré dans le droit commun, j'ai envie de dire. Mais passer ce stade-là, au final, quand vous restez, les gens finissent par se dire, celle-là, elle reste, c'est peut-être vraiment parce qu'elle veut faire ce métier-là. Et souvent, ça m'a ouvert des portes.
Aujourd'hui, à 39 ans, elle est donc à la tête d'une compagnie de 130 hommes sans ressentir de pression particulière.
Moi, je ne suis pas là pour convaincre, je suis là pour commander. Ce qui compte, c'est la compétence.
Un constat confirmé par Jean-Marie Philips, délégué régional du syndicat Alliance chez les CRS.
Il n'y a aucune différence entre un commandant masculin avec la commandante Vincent. Dès son arrivée, elle a fait preuve d'une parfaite écoute envers les fonctionnaires. En termes de commandement, elle connaît parfaitement les rouages des CRS.
Aujourd'hui, la commandant Vincent, qui passe les 3/4 de son temps avec ses hommes sur le terrain, veut prouver que chez les CRS aussi, le regard sur les femmes a changé. Dijon, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
À cette question à présent, faut-il vacciner les femmes enceintes contre le Covid-19? Elles sont environ 550 000 actuellement en France à porter un enfant et à sans doute s'interroger, Carole.
Oui, les femmes enceintes ne font pas toute partie de la population éligible pour la vaccination contre le coronavirus, contrairement à ce qui est recommandé pour la vaccination contre la grippe. Alors certains médecins et certaines futures mères s'en étonnent. Anne Le Gall, pourquoi cette situation particulière ?
Effectivement, dans un récent communiqué, l'Académie de médecine le rappelle, il n'existe aucune contre-indication à l'administration d'un vaccin en cours de grossesse, à l'exception des vaccins vivants ou atténués, ce qui n'est pas le cas du vaccin contre le Covid. Et pourtant, à ce stade, les autorités sanitaires ne recommandent l'injection qu'à certaines femmes enceintes, celles qui sont concernées par des problèmes cardiaques, respiratoires, une obésité ou celles qui vivent une grossesse tardive. Un choix qui s'explique par l'absence de données sur les effets du vaccin dans cette population. Alter est directrice de l'évaluation médicale à la Haute Autorité de Santé.
Ces vaccins, même s'ils ne sont pas contre-indiqués chez la femme enceinte, n'ont pas fait l'objet d'études à large échelle chez la femme enceinte. Donc dès lors qu'on aura des données cliniques d'essais de phase 3 chez la femme enceinte, eh bien on pourra établir des recommandations plus larges. Là, à ce stade, on ne contre-indique pas donc la vaccination chez la femme enceinte, mais on indique que la décision doit être prise au cas par cas.
Et en attendant, les futures mères sont invitées à consulter leur médecin ou leur sage-femme et si elles doivent se faire vacciner, ce sera avec un vaccin à ARN messager, car c'est celui qui entraîne le moins de risques de fièvre.
Et à noter qu'un demi-million million de Français a été vacciné en 3 jours. Le coup d'accélérateur dans la vaccination contre le Covid va se poursuivre, selon le ministre de la Santé, Olivier Véran.
Merci, c'était le journal de Carole Ferry, 5h40. Place aux courses, Thierry Léger.
Direction Caen pour un quintet réservé aux chevaux âgés de 4 et 5 ans. Et parmi les 13 partants, j'ai sélectionné les numéros 10, Ghost. À l'arrivée de ses 4 dernières courses, 11, Grandiose Bay, qui a fait jeu égal cet hiver avec Ghost, mon favori, 7, Hidalgo du Rib, irrésistible en dernier lieu à Vincennes, et 8, Ganymède de Corberie, maniable et très compétitif ici, sous réserve qu'il puisse bénéficier d'un parcours caché. Ensuite, je vous recommande Ginkgo Telois, le numéro 1, à ne surtout pas condamner sur son dernier échec, mais aussi Galliano du Désert, le numéro 13, pas incapable d'accrocher une place jugée sur sa meilleure valeur. Enfin, les numéros 2, Hugues de Banville et 9, Avaroche, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 10, 11, 7, 8, As, 13, 2, et 9.
C'est noté, merci beaucoup Thierry Léger. On retrouve tous vos pronostics sur Europe1.fr.
Théo Manval sur Europe 1.
Et j'accueille à présent notre première invitée en ce lundi 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Bonjour Chiara Corazza.
Bonjour.
Vous êtes la directrice générale du Women's Forum, organisation française et internationale qui porte la voix et la place des femmes dans notre économie. Avant de parler du futur, Chiara Corazza, je voudrais commencer par le présent. Les femmes, dites-vous, payent un plus lourd tribut que les hommes sur l'emploi avec la crise que l'on traverse.
Ah oui, ah oui. Ah oui, l'impact est surtout extrêmement fort pour la peur de l'avenir. Désormais, 73% des femmes ont peur de l'avenir et 59% ont connu une situation de dépression, d'anxiété, de burn-out, de peur évidemment de perdre leur emploi, contre 46% des hommes. Et ce sont les résultats, vous savez, très très objectifs, mais même si inquiétants, du premier baromètre des Women's Forum réalisé dans les pays du G7, donc les pays les plus riches de la planète, et que nous publions aujourd'hui, la journée de la femme. Et cette peur de perdre leur emploi est très motivée parce que j'ai pas les statistiques de la France, mais je vous donne un exemple de notre sœur italienne. En 2020, 99 000 femmes ont perdu leur emploi, alors que les hommes en ont perdu 2000. Mais en fait, c'est quand même inquiétant qu'un pays du G7 soit à ce niveau-là de perte d'emploi. Et en plus, si vous me permettez, avec la pandémie, l'impact négatif que les femmes vivent non seulement est réel, mais risque de s'accentuer. D'autant plus que les stéréotypes perdurent. Et je vous donne juste un exemple qui, moi, me frappe énormément, parce que nous sommes en 2021, et toujours d'après notre baromètre, 52% de femmes de tout âge, y compris des filles de 18 ans, sont convaincues qu'elles ne peuvent pas tout avoir. Si vous voulez être une bonne mère, eh ben, vous devez sacrifier partie de votre vie professionnelle.
88% des pertes d'emploi en Italie sont pour les femmes. Justement, vous dites que les politiques de relance qui se mettent en place aujourd'hui sont une occasion idéale pour accélérer enfin l'inclusion des femmes. Et dans le rapport que vous avez remis au gouvernement français l'an dernier, vous demandez à ce qu'ils soutiennent notamment la féminisation des métiers de demain, des nouvelles technologies.
Mais oui, parce qu'au Women's Forum, nous sommes précurseurs, nous sommes pionniers, nous avons déjà au moins plusieurs années, nous avons dénoncé l'importance des femmes dans les métiers du futur. Ce qui, tout simplement, transforme la société, transforme notre façon de consommer, d'agir, de vivre. Et que ce sont des emplois qui sont très largement masculins, tout simplement parce que il y a très peu de femmes dans ce qu'on appelle maintenant les filières STEM. STEM, ça veut dire métiers scientifiques, technologiques, d'ingénierie.
24% seulement des employés, un quart des employés de ces secteurs sont des femmes aujourd'hui.
Exactement, et ça n'est pas forcément en progrès. Et justement, vous voyez, quand j'ai dit que c'est une opportunité, cette crise, j'ai dit parce que je pense que justement, on a tellement montré qu'on était capable de faire face, qu'on ne peut plus imaginer qu'on crée un monde demain pour tous.
Alors comment on fait justement pour les féminiser, ces postes, ces métiers de demain?
Eh bien écoutez, tout d'abord j'aimerais dire que ces métiers n'ont pas de genre. C'est pas des métiers pour hommes ou des métiers pour femmes. Parce que on doit les inventer ces métiers, 85% de métiers en 2030 n'existent pas.
Mais très concrètement, comment on y parvient? Quel levier vous proposez ou demandez au gouvernement?
C'est très simple. Ce que j'écris dans mon rapport, c'est qu'en fait tout d'abord il faut convaincre les filles, les mères, les femmes. C'est à elles qu'il faut expliquer pourquoi c'est important. Il faut leur expliquer que, contrairement à ce que disent les fameuses stéréotypes qui disent que 34% des gens au monde pensent que le cerveau des hommes est différent de celui des femmes et que les femmes ne sont pas capables d'être le métier du futur. Eh ben oui, nous on a besoin des femmes. Alors qu'est-ce qu'on leur dit? On dit aux jeunes filles, vous savez, si vous voulez vraiment lutter contre le changement climatique, eh ben il faut que vous soyez forte en ingénierie, que vous soyez experte en climat, experte en énergie, experte en mobilité, que ce soit vous qui contribuez à dessiner les villes du futur. Il faut leur donner un objectif. Parce que les jeunes filles veulent avoir un impact social positif. Il faut leur démontrer que ces métiers sont la clé pour avoir le pouvoir de transformer le monde.
Vous aviez remis, Chiara Corazza, un rapport avec 27 pistes à ce sujet, hein, notamment la formation, mais bien d'autres choses, au ministre de l'économie Bruno Le Maire et à Marlène Schiappa, qui était alors en charge de l'égalité femmes-hommes au sein du gouvernement. C'était il y a un an tout juste. Ça devait nourrir un projet de loi sur l'émancipation économique des femmes, et un projet qui n'a jamais vu le jour.
Il ne vous a peut-être pas échappé qu'il y a eu un petit virus qui nous a quand même complètement révolutionné notre façon de vivre, de penser, d'agir et d'être. Mais moi, je suis très confiante. Je pense qu'il y aura une fenêtre de tir dans les travaux très chargés de l'Assemblée nationale et qu'on pourra présenter cette loi dès cette année et qu'on pourra la porter comme exemple dans tous les pays du monde, parce que la France, je voudrais que nos auditeurs le sachent, est pionnière quand même en matière d'égalité des genres. Vous savez que, par exemple, on va peut-être en parler, mais nous avons quand même près de 46% de femmes dans les conseils d'administration. Et maintenant, bien sûr, cette loi sur l'égalité économique, sur l'égalité financière, sur l'égalité sociale, est aussi une loi qui doit permettre aux femmes d'être là où elles peuvent apporter cette contribution dont le monde a besoin, et notamment dans ce qu'on appelle en France les comités exécutifs et les CODIR.
Vous dites aussi, Chiara Corazza, et ça va à l'encontre d'un reproche que certains font parfois à une partie des militantes féministes, pas toutes, je ne suis pas en opposition avec les hommes, je suis en opposition avec le fait qu'on ne nous écoute pas.
Eh bien écoutez, moi je dis une chose, très simplement, nous avons les talents, non pas de genre, nous sommes toutes les hommes et les femmes, ensemble, la main dans la main. Moi, je n'aime pas l'opposition, la compétition avec les hommes. Ce n'est qu'ensemble. Et c'est pour ça qu'on veut une relance pour tous et avec tous. Mais avec cette contribution des femmes, ce n'est pas notre bataille. C'est une bataille pour nos enfants, pour le monde que nous voulons pour elles. C'est pour toute l'humanité. Donc, c'est ce que nous appelons une vraie relance inclusive. Et permettez-moi d'utiliser un terme anglais. Je sais que ce n'est pas très bien vu en France, mais ça s'appelle la « she recovery ». Une recovery pour tous, une recovery au féminin, une recovery où nous pensons différemment, où nous apportons une contribution. Et je peux vous dire que beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de chefs d'État ont très bien compris combien c'est important de prendre en compte ce que nous, Women's Forum et notre grande communauté internationale portons, parce que une fois de plus, ce bénéfice de tous. C'est ça qui est important.
Une toute dernière question, Chiara Corazza. Nous sommes donc le 8 mars, journée internationale pour les droits des femmes. Quelle est aujourd'hui la plus grande urgence, selon vous, le droit le plus important, le plus nécessaire à acquérir pour de bon?
Eh bien, écoutez, je me répète. Le droit plus important pour moi, c'est que les femmes aient les mêmes opportunités, les mêmes compétences, les mêmes expertises, les mêmes atouts et la même capacité de choisir que les hommes pour apporter pleinement leur contribution. C'est un défi universel, pas qu'en France. Et c'est le défi que nous devons relever tous ensemble.
Merci beaucoup, Chiara Corazza, directrice du Women's Forum. Merci d'avoir été notre invitée ce matin. Très bonne journée.
Merci à vous et très belle journée aux femmes, à toutes les femmes du monde.
Europe 1.
5h48 dans un instant, ce qui fait la une sur les réseaux sociaux. Martin Lange, qu'est-ce que vous nous racontez ce matin?
Un tweet à 2,5 millions d'euros. Je ne sais pas si ça vous fait rêver.
Ça fait toujours rêver.
Si ça vous donne envie de tweeter plus. Enfin, je vais vous expliquer pourquoi ce tweet vaut si cher.
Des ventes aux enchères. À tout de suite, Martin Lange, dans une minute.
Europe 1. Théo Manval.
À 6h10, l'essentiel de l'info ce matin, et cette claque pour l'OM, leur Canet en Roussillon. Porter que la coupe était un objectif et qu'il fallait viser la finale. La tragique disparition d'Olivier Dassault, le fils de Serge Dassault et député LR de l'Oise. Il est mort dans le crash de son hélicoptère hier soir près de Deauville. Accident au décollage vers 18h. Le pilote a également perdu la vie. Les enquêteurs du BEA doivent se rendre sur place dans la journée. À l'occasion de la journée internationale pour les droits des femmes, le groupe La République En Marche doit déposer une proposition de loi aujourd'hui à l'Assemblée, prévoyant des quotas de femmes dirigeantes dans les entreprises de plus de 1000 salariés, 30% d'ici 5 ans, 40% d'ici 8 ans. Et puis, 500 000 de Français vaccinés ces 3 derniers jours. Le coup d'accélérateur dans la vaccination contre le Covid va se poursuivre, selon le ministre de la Santé Olivier Véran. Les livraisons doivent continuer d'augmenter dans les semaines qui viennent avec des quantités multipliées par 5 ou 6 le mois prochain. À la une des réseaux sociaux ce matin, Martin Lange, un étrange acronyme, les NFT, racontez-nous.
Alors, NFT, c'est une abréviation, ça veut dire Non-Fungible Token. Alors, c'est pas beaucoup plus clair en version longue, hein, j'imagine. C'est la nouvelle tendance dans le monde des crypto-monnaies. Vous savez, c'est ces monnaies virtuelles comme le Bitcoin qui ont le vent en poupe actuellement et qui s'échangent à des milliers d'euros.
Effectivement.
Alors, le NFT permet en fait de rendre des objets numériques, une photo, une vidéo, un tweet, unique et non remplaçable, et donc de les monétiser, c'est-à-dire qu'on peut les vendre, et souvent, ça vaut très cher. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, parce que ce week-end, Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, a mis en vente son tout premier tweet, Just setting up my Twitter, je viens juste de créer mon compte Twitter, un tweet qui date de 2006, et les enchères ont explosé, 2,5 millions de dollars pour le vainqueur.
J'ai envie de vous dire que ce tweet, on peut tous le retrouver si on va sur Twitter ce matin. À quoi bon acheter un tweet aussi cher, Martin?
Tout à fait, si vous allez sur le compte de Jack Dorsey et que vous remontez en 2006, vous allez le retrouver. Mais l'heureux vainqueur des enchères, lui, va obtenir un certificat numérique du tweet, un document unique, signé et vérifié par le créateur. C'est une sorte d'autographe, hein, et c'est ce certificat qui vaut une petite fortune.
Un peu comme un certificat d'authenticité pour un tableau, un tweet qui prend une telle valeur, on en apprend tous les jours. Et ce FNT, Martin, vous nous dites qu'il ne fonctionne pas que pour les tweets?
Non, récemment, c'est la NBA qui s'est associée à une entreprise spécialisée dans ces transactions numériques pour lancer Top Shot, une plateforme où vous pouvez acheter des extraits vidéo de matchs appelés des moments. Hein. Il y a quelques jours, une action de LeBron James, la grande star de la NBA, s'est vendue à plus de 200 000 dollars. Comme pour les tweets, hein, vous pouvez toujours voir l'action sur YouTube si vous allez voir, si vous cherchez LeBron James, mais l'acheteur a obtenu, lui, le certificat numérique de la vidéo.
C'est-à-dire que
c'est le seul propriétaire de ce moment.
Un petit peu comme si on était propriétaire de la première tête de Zidane pour France-Brésil en 98. Bon, ça paraît un petit peu irréel, ces transactions, Martin, surtout à ces prix-là. Hein. Je rappelle, 200 000 dollars, mais certaines répondent quand même aux lois du marché.
Oui, notamment dans l'art, puisque de plus en plus d'artistes proposent des œuvres digitales. Là, vous achetez vraiment une œuvre, hein, que vous êtes le seul à avoir. La célèbre maison de vente Christie's, hein, s'est d'ailleurs lancée. Jusqu'au 11 mars, vous pouvez enchérir sur une œuvre entièrement numérique de l'artiste new-yorkais Beeple.
Là, on comprend un petit peu mieux à quoi ça ressemble une œuvre numérique. Est-ce que déjà tout le monde peut la voir?
Alors, on peut voir un extrait sur Instagram, sur le compte Instagram de Beeple, notamment, et Christie's. On peut voir une petite partie de l'œuvre, mais évidemment pas son ensemble, parce que sinon, à quoi bon l'acheter?
Le prix de
vente. Donc voilà, il n'y a que l'acheteur qui pourra l'avoir.
À quand des exposition d'œuvres numériques, tout ça est décidément assez révolutionnaire. Merci beaucoup Martin Lange.
Merci.
La France bouge, revient demain avec Corinne Boulou cette semaine. Votre rendez-vous tous les jours à 14h avec On de la Traconte, l'histoire du jour que vous pouvez écouter dès à présent. Nexia, mannequin en Iran qui a fui son pays où elle risquait 148 coups de fouet pour avoir montré son corps. Arrivée à Paris, entre les lenteurs de l'administration et les hommes trop intéressés, elle n'est pas au bout de ses peines. Le récit de cette histoire, c'est dans On de la Traconte à 14h. Vous pouvez le télécharger dès maintenant sur europe1.fr.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
À 5h54 sur Europe 1, il est l'heure de s'intéresser à notre planète. Avec vous, Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
Les experts du climat ne veulent plus faire que des conférences en virtuel pour limiter le réchauffement climatique, Fanny, et ce même une fois que la pandémie sera terminée.
Oui, les scientifiques et négociateurs sur le climat veulent balayer devant leur porte. Dans une enquête menée par la revue Nature, ils estiment eux-mêmes à 74% que les conférences qu'ils ont menées à distance depuis un an sont très avantageuses parce qu'elles provoquent beaucoup moins de gaz à effet de serre. Les conférences sur le climat étaient jusqu'à présent assez lourdes en carbone, dues notamment aux déplacements. Éviter de telles incohérences alors que nous savons faire autrement serait déjà un premier pas pour améliorer l'efficacité et l'image des réunions internationales sur le climat.
Le risque, Fanny, c'est que les négociations soient moins efficaces à distance?
Eh bien, comme pour toute activité, le télétravail ne peut pas remplacer complètement la rencontre physique entre collègues et négociateurs. Les études sur le télétravail démontrent bien que c'est néfaste pour la performance de faire uniquement des rencontres en virtuel. C'est d'autant plus difficile lors de négociations internationales, car tant de décisions se prennent grâce au relationnel, aux interactions en coulisses, lors de la pause café par exemple. Se voir rend aussi plus difficile de se comprendre lorsque des centaines de personnes réunies ne parlent pas la même langue. En revanche, la réalité est que nous apprenons à faire différemment, à devenir très expressifs derrière les écrans. Les salons et forums virtuels permettent même de réseauter via des modalités assez simples.
Ça veut dire que les prochains grands rendez-vous de la planète prévus sur le calendrier international, Fanny, pourraient amener les participants à négocier entièrement à distance?
Alors pour l'instant, les organisateurs ont l'air d'insister pour que les grands sommets sur le climat et la biodiversité se déroulent comme avant. Le gouvernement britannique a d'ailleurs fraîchement indiqué que la COP26, reportée l'an passé, se tiendra en présentiel à Glasgow, tout comme le Congrès international pour la nature censé se tenir aussi sur place à Marseille en septembre prochain. La solution est sûrement de couper la poire en deux. Maintenant que nous réussissons à prendre de nombreuses décisions à distance, gardons seulement le strict nécessaire pour se réunir et ne plus s'enfoncer dans le paradoxe de ces grandes COP climat et biodiversité qui sont perçues comme des non-sens écologiques.
Effectivement, merci beaucoup Fanny Agostini, à demain.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
Bienvenue à vous tous sur Europe 1. Si vous nous rejoignez au réveil, il est presque 6h en ce lundi 8 mars.
Je n'ai pas le temps de raconter ici toute l'histoire de la femme, mais il est bien évident que d'époque en époque, il y a eu toujours une volonté des hommes de prendre le pouvoir.
Des femmes à des postes de pouvoir, il y en a encore trop peu dans le monde économique ou dans celui du sport. En cette journée mondiale pour les droits des femmes, la parole à celle qui inspire aujourd'hui les générations de demain, Amélie Oudéa Castéra, ancienne joueuse de haut niveau, devenue vendredi dernier la directrice générale de la Fédération française de tennis, vient nous parler de son parcours et de ses chantiers pour les clubs pour Roland Garros. Elle sera notre invitée à 6h40. Mon invité inattendu, lui, dans un quart d'heure, a réussi un exploit sportif d'un tout autre genre. Seul Français à avoir jamais réussi en basket, le fameux tir à 100 000 euros à la mi-temps d'un All-Star Game, le match des meilleurs joueurs de l'année. C'était il y a 8 ans, personne n'y est arrivé à nouveau depuis lui. C'était cette nuit le All-Star Game en NBA. Jusqu'à 7h, vos rendez-vous habituels, l'innovation du jour avec Anissé Mbida, votre revue de presse internationale. On ira en Espagne notamment ce matin. Et puis comme tous les jours, notre respiration musicale. Ce lundi 8 mars, l'hymne politique et féministe d'Aretha Franklin. Elle ne demande pas du respect, elle l'exige. Ce sera la partition d'Omblin Roche tout à l'heure à 6h25. Mais avant cela, M-E-T-E-O, Laurent Cabrol, ça c'est votre morceau à vous. Quel temps pour ce lundi, Laurent?
Eh bien, écoutez, c'est un peu mieux, mais c'est pas une grande journée. Hein. Je voulais quand même parler des températures, car ce matin mérite quand même notre attention, chers amis. Moins 5 à Charleville-Épinal, moins 4 à Saint-Dizier, 3 en ce moment sous abri, hein. Moins 3 à Nancy, moins 2 à Strasbourg, moins 1 à Rennes et en banlieue parisienne, 1 à Paris-Ville, 2 à Lille, 3 à Brest, 5 à Besançon, 6 à Cognac, 7 à Bordeaux, 8 à Toulouse et Lyon et 10 à Marseille. Bon, vous êtes informés maintenant, si vous êtes sur le point de vous habiller ou de sortir du lit, vous savez qu'il ne fait pas très très chaud. La journée s'annonce ensoleillée donc et froide sur la moitié nord essentiellement, la Manche, la Champagne, les Ardennes, la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne, la vallée de la Loire, la région parisienne, le Poitou-Charentes. Quand je dis la Manche, ce sont toutes les régions qui bordent la Manche, bien sûr. Le Bordelais maintenant, le Limousin et le Bourbonnais, des nuages humides. Sont assez bêtes comme forme une nuage humide. Les nuages sont souvent humides. Des nuages, point. Puis une éclaircie avec pas mal de lumière, faut bien le dire. Mmh. En Auvergne, Sud-Ouest, Roussillon, région lyonnaise et dans les Alpes comme en région Rhône-Alpes, comme la Franche-Comté, là ce sera un temps d'éclaircie, mais des éclaircies ponctuées d'averses. Et donc ce sera pas terrible, terrible. Pour le Languedoc maintenant, la Provence et la Côte d'Azur, un ciel voilé. Où êtes-vous né, Théo? Vous êtes né à quelle ville?
Pardon, à Saint-Étienne dans la Loire.
Ah, comme Julie alors.
D'accord. Exactement, ça nous fait un point commun.
Ah oui, d'accord, Saint-Étienne, 12 degrés cet après-midi.
Pas mal.
Donc 7 degrés en banlieue parisienne, 8 degrés à Lille, 9 à Rennes et à Paris, 10 degrés à Julie, à
10
Dijon,
degrés à Julie, oui.
11 à Besançon, j'espère qu'elle a plus. Hein. 12 à Toulouse et Biarritz, 13 à Lyon, à Montflanquin exactement aussi. Mmh. Et puis 15 à Nice et 16 à Marseille.
Merci pour ce point. Température complet, Laurent Cabrol, on vous retrouve tout à l'heure dans une demi-heure.